alors tu vois Guillaume, pendant que t'étais pas là en fait, Charline elle m'a chargé cette année de m'occuper des invités.
Quoi? Mais pourquoi elle a fait ça? Elle est totalement inconsciente.
Oh ça va, ça va.
Mais
ça
comment
va.
Tu fais du coup?
En fait moi je lis 2-3 trucs sur le gars et je fais semblant de connaître son œuvre.
Ah, hein, bah, ça c'est brillant, brillant.
Salut les garçons. Ah, je suis ravie de vous voir déjà au boulot. Hein.
Salut Charline.
Alors aujourd'hui on reçoit Gauze.
Ah on va parler courbe.
Hein?
Je suis assez bon en maths.
Mais non, non, c'est un auteur franco-ivoirien dont le plus gros succès est Debout Pays.
Voilà, ah. Merci Wikipédia. Merci.
Voilà, et il vient pour son nouveau livre Camarade Papa. Donc je vais vous lire un extrait. Les grands soirs, camarade papa, tout est instrument de lutte contre le grand capital, aveugle et apatride.
Oh, c'est beau.
La maison devient camp révolutionnaire, anticapitaliste.
Oh, ça j'aime, fini les révolutionnaires de pacotille, hein. On reçoit un vrai rouge.
Ah non, non, il est noir. Hein. Ah,
c'est bien qu'Alex gère les invités parce qu'il est pointu.
Bon,
je continue, donc Gauze. Gauze toujours, ça m'intéresse.
Alors c'est bien que vous fassiez les jeux de mots maintenant, comme ça on les fait pas pendant l'émission.
Ouais. En fait, Gauze, ça vient de Gozoro, c'est le nom de son grand-père, et ça veut dire homme fort.
Et en tout cas, ça fait plaisir d'accueillir quelqu'un de vraiment engagé.
Ouais, enfin, bon, je te cache pas que nous, les Belges, ils nous aiment pas trop, en fait.
Un type sensé, tiens.
Comment ça?
Non, rien, enfin, je rappelle quand même qu'on est champion du monde.
Oui, c'est
pas le problème.
Ouais, en tout cas, dans le livre, il nous reproche pas mal le Congo.
C'est normal.
Oui, mais moi, j'y connais rien au Congo, je sais même pas où c'est le Congo. Je sais juste qu'on l'a perdu.
En fait, en colonie, vous êtes comme au foot.
C'est-à-dire?
Vous dominez, vous êtes balèze en possession, puis à la femme, vous perdez.
Ça me fout le seum. Bonjour la France Inter.
Bonjour,
ne riez pas déjà, j'ai rien dit de drôle. Voilà, j'avais aussi oublié d'imprimer mes petites feuilles comme avant-hier. Mais là, notre merveilleux stagiaire, Paul Plumet, merci Paul, vient de me les amener. On peut démarrer. Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up radiophonique. Jupiter plonge dans les sondages, il chute même plus bas que François Hollande au même stade du mandat. Apparemment, ça ne ruisselle pas. Hein.
C'est bien simple, quand vous êtes tout en haut, il y a tous les emmerdements du bas qui remontent par capillarité. Qu'est-ce qui doit prendre les décisions? C'est Bibi.
Pour inonder l'Afrique de bière industrielle, Heineken pratique la corruption, engage des prostituées et elle fut même le carburant des génocidaires Rwanda. Le grand patron hollandais adore pourtant le continent.
Depuis l'Algérie, je suis rarement senti aussi bien dans un pays d'Afrique. On aurait pu la garder,
c'est vrai. Un conseiller du gouvernement britannique propose de coller toute la signalisation sur le sol. Ainsi, les piétons qui se déplacent tête baissée sur leur portable sauront que le feu est rouge.
Ne baissez pas les yeux. Ne baissez pas la tête. Tenez la ligne.
Merci François, on va suivre tes conseils. Lui aussi, il tient la ligne.
Ça, c'est vrai.
La ligne éditoriale des brèves. Pour le reste, il n'a pas renouvelé sa carte à la salle de sport. Bonjour Alex Vizorek.
Je vous le confirme. Bonjour Charline Venounaker. Bonjour à tous. Et évidemment, une toute belle équipe aujourd'hui autour de la table à 17h20. Lundi prochain, nous recevrons Daniel Gilbert. Et malheureusement, il ne sera pas là pour qu'elle lui explique comment programmer de la bonne musique dans une émission. N'est-ce pas, Djoubaka?
C'est dommage.
Mais je sais.
J'aurais bien aimé la rencontrer.
De quoi
on parle aujourd'hui, c'est ça qui vous intéresse? De Jess Abbey et Peter Wan. Vous savez qui c'est? Un gros ivoirien.
L'invité connaît.
Et ben voilà, 17h30, celui que vous aviez peur d'avoir perdu, mais est-ce que vraiment vous êtes content de l'avoir retrouvé? Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour à tous, moi je suis allé au grand forum Convergence, je vais vous parler d'écologie, de solidarité, tous ensemble, on va sauver le monde.
Tout à l'heure il y aura une session sur l'utilité sociale de la finance.
Non, absolument pas l'utilité sociale de la finance, on parlera donc pédophilie et puriculture.
Et enfin, 17h40, vous venez de l'entendre crier, celle qui est contemporaine tout en ayant de l'expérience, puisqu'elle est à la page et qu'elle a de la bouteille, c'est Juliette Arnaud, bonjour.
Ouh là là, c'est beau.
C'est beau, il y a tout ce que vous êtes
dedans. De quoi on va parler?
Oui.
D'un livre?
Ça je me doute, mais lequel?
Je vous dis pas.
Ça vaut la peine de faire.
C'est lui qui l'a invité, car voici celui qui va enjailler notre open space. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Gauze.
Yes,
c'est lui. France Inter, Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek.
Par Jupiter.
L'écrivain Gauze en notre compagnie jusqu'à 18h. Vous publiez Camarade Papa, édition Le Nouvel Attila. Vous êtes donc l'auteur de Debout Payé. Et voici votre donc deuxième roman, si je ne m'abuse.
Affirmatif, madame.
Voilà. Nous sommes à Grand Bassam, qui est la première capitale coloniale de Côte d'Ivoire. Le roman commence au 19e siècle, où un jeune Français venu de la Creuse tente l'aventure coloniale.
Un migrant.
Oui, exactement. Le migrant s'appelle Dabili. Et en parallèle, vous déroulez le récit d'un jeune d'origine africaine, mais un siècle plus tard, et qui grandit à Amsterdam dans une famille communiste. d'où le titre aussi « Camarade papa ». Vous développez donc sur la colonisation deux points de vue. Il y a un homme blanc du 19e en Afrique et un enfant noir du 20e en Europe qui va en Afrique. Vous êtes franco-ivoirien. Il y a donc en vous une part d'homme blanc
que j'assume,
et
que
du 19e siècle.
Que j'assume totalement. Je suis le fruit de cette histoire-là, donc je l'assume de façon décomplexée. La négritude, il n'y en a rien à péter, en fait.
Voilà. Donc, prends ça dans la gueule, Aimé Césaire, ce qui nous écoute. Bam!
Léopold Sédar Senghor et toute sa clique, Cheikh Anta Diop, je m'en fous de venir de pyramide et tout ça. Moi, ouais. Je suis à la fois français et donc issu de cette culture et de cette histoire-là. Donc je peux me mettre dans la peau d'un jeune français qui bouge, qui quitte chez lui, qui cherche à accomplir un destin personnel. De la même façon que moi-même, de façon personnelle, il y a 15 ans, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en me disant, bon écoutez, je vais aller voir ailleurs si cet ailleurs là est meilleur.
Donc Charles Martel, vous comprenez pourquoi il a...
Ah non, je sais pas, il a beau marteler, je comprends rien, quoi.
Mais y compris cette part d'homme blanc, celle du 19e siècle, parce qu'il y a vraiment le style d'écriture et de langage, la manière dont il parle. Ça, stylistiquement, vous l'avez nourri comment? Parce que ça, on l'a pas.
Les rapports administratifs disent ce que l'époque veut l'entendre. Et ça, c'est pas là-bas qu'on trouve la langue. La langue, en fait, on la trouve dans les lettres personnelles. On oublie de dire que la colonisation, c'est pas juste un grand système qui est tombé comme ça de la gueule ou de la tête de Jules Ferry pour dire « Allez au loin là-bas, apporter la civilisation aux petits négros qui dansent tout nu ». Non, 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 non. Une fois que tu dis ça, qui va là-bas? C'est pas les petits copains du 16e arrondissement, mais c'est des gars de la Creuse, des gens qui cherchent leur destin ailleurs, quoi. Et ceux-là, ils ont des copains ici, ils tombent amoureux là-bas. Mm-hmm. Donc à hauteur d'homme, c'est différent. Donc quand ils s'écrivent ceux-là, ils parlent différemment que dans les rapports administratifs. Donc je me suis énormément nourri de cette façon-là. Et puis en plus, le français de l'Afrique de l'Ouest est hérité pas mal en fait de cette manière de parler là. Ouais. Donc il y a des mots. Moi, je m'appelle encore Armand. Ça rigole pas. Oui. C'est des prénoms des années 20, 30, voire du début du 20e siècle. Donc on a un peu aussi cette façon balsacienne, on a gardé ça.
D'utiliser un langage très châtié, surtout voilà. Les vieux qui utilisent encore un vocabulaire.
Dans la rue, mais même pas les vieux, les jeunes dans la rue au Cameroun ou à Abidjan. Mm-hmm. Des fois, ils sortent des phrases incroyables, quoi, les gens dans la rue. Quoi.
Vous développez donc un double point de vue sur la colonisation, avec double mouvement, venir d'Europe en Afrique, d'Afrique en Europe, l'homme blanc, l'homme noir. Pourquoi avoir développé deux points de vue? Ça permet d'avoir une vision très complète.
Non, ça m'a permis de décolorer déjà le truc. C'est mon grand combat, c'est la décoloration de tous les points de vue. C'est une façon de voir bourgeoise que de fabriquer du noir, du négro, la machine à négro de la négritude, elle obéit au même système que la machine à négro de la colonisation. Donc en fabriquant la couleur, tu donnes des prétextes à un petit groupe pour dominer un plus grand. Mmh. Donc c'est totalement capitaliste et bourgeois. Dès que tu sors de la couleur, justement, c'est pour ça que je peux être blanc, et ce jeune homme africain ou noir, peu importe, qui naît en Hollande et qui repart en Afrique, de la même manière que le vieux blanc du 20e siècle. Ouais. Donc dès que tu pètes la couleur, apparaît, surnage la classe sociale. Et là, c'est plus le même discours. C'est de dire qu'on, mais en fait, on s'en fout, on se fait arnaquer par des gens, par un groupe précis de personnes. Mmh. C'est plus du tout le même discours. Et là, c'est fini le gros sentimentalisme. Ah, mais non, tu me traites pas de sale nègre. Mais j'en ai rien à foutre. Tu es responsable de ce que tu dis quand tu me dis sale nègre. Mais par contre, tu m'empêches pas d'étudier, tu m'empêches pas de travailler. Voilà. Ça, dès qu'on sort de la couleur, le vrai discours sort. Le discours de la classe sociale. Et ça rigole plus à partir de ce moment-là.
Et la lutte des classes est liée, et le côté très idéologique. Je vais me permettre de lire un extrait. On est au début du roman, à peu près. Donc, Dabili va quitter Amsterdam pour arriver en Afrique. Il doit prendre l'avion. Jamais Air France. Il ne transporte que la bourgeoisie comprador. Le peuple souverain, il le déporte. Jamais Air Afrique, une compagnie de coloniaux d'enfer et d'aliénation qui ne rêve que d'imiter ses maîtres en reproduisant dans les airs la réaction bourgeoise française à la sauce africaine. Toujours UTA. Ah, UTA. Union des transporteurs aériens. Quand tu entends Union, la sainte classe ouvrière n'est jamais loin. Debout pour faire face au patronat scélérat. UTA, la seule compagnie volante avec un actionnariat ouvrier. Ce n'est qu'un début. On continue le combat. Voilà toute l'essence de camarade papa. Ici, c'est l'idéologie vécue à fond. Ça raconte une époque. quoi, années 60.
L'enfant, il se barre en fait le lendemain, l'année d'après la mort du camarade Shao Shan Mao. Mm-hmm. Donc 77.
Ouais. Ah, 77.
Voilà, exactement. Donc je suis-il action à peu près à ce moment-là. Ouais. D'ailleurs, c'est presque la fin de ces idéologies. Quand Mao meurt, tout part en sucette. Deng Xiaoping arrive avec son proto-capitalisme à la sauce chinoise, ouais, qui fait que la Chine est aujourd'hui la plus grande puissance capitaliste du monde aujourd'hui. Bon, de toute façon, moi, la voix de ce gamin-là, c'est la voix de l'idéal, de l'idéal pur. On n'en a rien à péter de l'héritage de Staline, Lénine et de Mao, finalement. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'ils portaient comme idée. On n'est pas responsable, on n'est pas comptable de leur idéologie. Mmh. De la même manière que le petit français ici n'est pas comptable de la colonisation. Oui. Donc voilà, tant qu'à faire, on décomplexe tout. Pas que, justement, le racisme, il faut le décomplexer, le virer, justement.
Je vais appeler mon grand-père parce qu'on va se réconcilier. Ça,
c'est... Mais ouais, c'est...
merci pour ce que vous faites.
C'est ça qu'il faut faire.
Voilà, j'avais un peu du mal.
Gauze qui publie Camarade Papa, édition le Nouvel Attila, et Juliette Arnaud va y revenir. Sachez qu'on vous le conseille chaleureusement. Heureusement, vraiment. C'est Gauze avec nous jusqu'à 18h avec Djoubi, Guillaume, Alex, Juliette. I tell you about now, baby. You know, she comes around. Just about 5'4". I'm from her head to the ground. You know, she comes around here. Just about midnight. She make her feel so good, love. She make her feel all right. And her name is Jean. Comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch you come to my house. She knock upon my door. And then she come to my room. Make me feel alright. Gloria Them sur France Inter, un choix musical de...
De Monsieur Djoubaka.
Bah ouais.
Ah, c'est lui. Oh, il est là.
C'est lui qui choisit, ouais.
Et on suit autour de la table pour entourer Gauze.
Juliette Arnaud et Guillaume Meurice. Vous êtes avec nous sur hashtag par Jupiter. Et des gens disent avec ce que dit l'invité, j'ai envie d'acheter son livre.
Et oui. Ah,
donc voilà.
Camarade Papa, édition Le Nouvel Attila. Et Juliette Arnaud va y revenir tout à l'heure. Mais en attendant, un petit peu d'informations. Un petit peu.
Tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau.
Le journal de presque 17h17.
Je ne sais pas nager, je veux te voir.
Et on commence par les titres.
François de Rugy devient donc ministre de l'écologie.
Et c'est tout à fait cohérent, il est très fort en recyclage. On se souvient qu'il avait brillamment recyclé sa parole de soutenir Hamon après sa défaite à la primaire à gauche pour aller voir l'herbe plus verte en Macronie.
Oui. La ministre des Sports, Laura Flessel, a annoncé aujourd'hui sa démission et son départ du gouvernement.
Coup dur, certes, pour Emmanuel Macron, mais coup dur pour Léa Salamé et Nicolas Demorand qui se demandent mais pourquoi elle ne l'a pas annoncé au micro de France Inter.
Et des brèves.
Je n'ai jamais démissionné du ministère de la brève.
Yes. Et donc c'est deux nouvelles, hein, deux nouvelles, une bonne et une mauvaise.
La bonne, c'est que Ségolène Royal va rester sur l'épaule, ça c'est fait.
Et la mauvaise ?
Et la mauvaise, c'est que François de Rugy est le nouveau ministre de l'écologie, ce qui risque de ne pas aider l'épaule non plus.
Et il succède à Nicolas Hulot comme ministre de l'écologie.
Oui, tiens, Brut a retrouvé ce que disait François de Rugy il y a un an à propos du programme écologique d'Emmanuel Macron.
Il y a deux problèmes lourds avec Emmanuel Macron. Le premier problème pour moi écologiste, c'est qu'il ne parle pas d'écologie. Je ne sais pas quel est son programme écologique.
Bah on espère qu'il le sait maintenant. Hein. Ça fait deux, trois jours qu'il le bosse peut-être.
Et Nicolas Hulot, après sa démission, a déclaré avoir le cœur triste, l'esprit léger et la conscience tranquille.
Oui, le capitaine du Costa Concordia a porté plainte pour plagiat.
Et c'est la nageuse Roxana Maracineanu qui va remplacer Laura Flessel au ministère des Sports.
Oui, bah visiblement, après s'être fait construire une piscine à Brégançon, Manuel aime beaucoup la nage.
Et la cote de popularité du président s'effondre. Elle accuse une chute, cette cote, à 31% d'opinion favorable, légèrement sous François Hollande à la même époque.
Et on y est, voilà, chute de popularité, remaniement, et vous allez voir qu'il va nommer un jeune loup ministre de l'économie. Et ça sent la fin.
Majorité, toujours. Hier sur Twitter, Benjamin Griveaux s'est félicité de l'interdiction des néonicotinoïdes dans l'agriculture française en tweetant « Il y a ceux qui parlent et ceux qui font.
Oui.
Nous faisons. »
Sauf que cette interdiction a été votée en 2016, sous le quinquennat de François Hollande.
Ah, oui, oui, oui.
Benjamin Griveaux, le Thomas Sisley du gouvernement, comme on l'appelle.
Passons à droite, et à Nice, Christian Estrosi a refusé de célébrer un mariage à cause d'une série d'infractions des invités sur la voie publique.
Bon, c'est marrant, parce que souvent il va au meeting des Républicains, et dans la série infractions des invités, il n'est pas si regardant.
Santé, à présent, selon l'Agence nationale de l'environnement, certaines fournitures scolaires peuvent être toxiques. Il faut éviter les feutres qui sentent la fraise, la vanille ou les gommes parfumées, préconise-t-il.
Oh. Oui, alors partant du principe que si vous vous mettez à sucer des feutres ou de la gomme, c'est que déjà la colle était toute bonne quand vous l'avez sniffé avant.
Justement, Aubervilliers, le rappeur Mac Tailleur offre des fournitures scolaires avant la rentrée.
Oui, les mauvaises langues diront qu'elles n'ont jamais servi.
petite
blague, oui, bref. Bah si, on peut. Bon.
Des brèves.
Oui, des brèves. En Californie, faute de place suffisante, les professeurs de fac sont en cours encouragé à héberger des élèves. Ah. Jean-Luc Lahaye s'est déclaré passionné par l'enseignement et est disponible tout de suite.
Allez, la dernière.
Et la dernière, Aix-en-Provence, la toute première implantation de la chaîne de restauration rapide Quick va fermer ses portes. Si vous souhaitez, pour l'honorer et honorer sa cuisine, vous pouvez toujours aller déposer une gerbe sur le site.
Merci Alex. Nous sommes en compagnie de Gauze qui publie Camarade Papa en cette rentrée littéraire. Et on va vous soumettre ce premier sujet dont on va débattre un peu. Après une année à marcher sur l'eau, Jupiter plonge. Alex l'a dit dans les sondages, il vient d'atteindre un niveau de popularité plus bas que celui de François Hollande à la même période du mandat. Il y a 31% des Français qui approuvent l'action d'Emmanuel Macron comme président. C'est 10 points de moins qu'en juillet. C'est la plongée, oui.
Quand tu plonges comme ça, qu'est-ce que ça te fait ?
C'est comme si je glissais sans tomber. Le plus dur, c'est une fois en bas.
Pourquoi ?
Il faut une bonne raison pour remonter. J'ai des fois du mal à en trouver une.
Le grand bleu de Luc Besson. Gousse, vous disiez, je pourrais travailler ici, mais bien sûr, avec joie. D'ailleurs, vous avez fondé un journal satirique.
Qui s'appelle News & Co. On faisait semblant de parler sérieusement d'économie. On en parlait sérieusement, mais en fait, on en profitait pour tacler un peu tout le monde, pour leur dire que c'est une science molle, quoi. Ça sert à rien de, voilà, la dette et tout ça. C'était complètement du vent, mais bon, avec de belles phrases et puis chaque fois des petites cheat notes comme ça au milieu. D'accord. C'était assez, jouissif. D'ailleurs,
dans une même famille d'esprit. Oui, c'est ça, sûrement, j'imagine. Alors donc, il y a 22% de Français qui jugent le président proche des préoccupations des Français. Donc, il descend même à un point en dessous de François Hollande à la même époque. Gauze, vous, d'après vous, avec votre regard, qu'est-ce qui le rend impopulaire, Emmanuel Macron ? Qu'est-ce qui a merdé depuis un an ? Qu'est-ce qui fait mal ?
Est-ce que ça vous dérange pas si je parle pas de lui et que j'en ai rien à foutre ?
Oh non, pas du tout.
Par contre, je veux savoir où est la cote de popularité des Républicains. Tu sais, la bande à Chirac, l'ex-bande à Chirac. Tant qu'ils ont la tête sous l'eau, moi, ça me va, quoi. Parce que lui, évidemment, c'est un feu de paille, ça, c'est, ça va finir en Giscard, en UFD ou des UDF, là.
Oui,
ça
UDF,
va finir, oui. Ça va finir comme ça. Donc, lui, c'est un momentané.
Ah oui, vous le voyez faire un mandat,
oui, bien
bah,
sûr,
comme Hollande,
bien
en
sûr,
fait.
Avec, ouais. Bien ouais. sûr. Les autres, là, la bande à Chirac, les filles et ses enfants, là.
Ouais. Les Éric Ciotti, voilà, les Wauquiez.
Les Wauquiez, là, les enfants de Chirac, ouais. Nicolas, là, celui-là. Ouais. Tant qu'ils ont la tête sous l'eau, moi, ça me va.
Mais la cote de popularité de Chirac, elle est énorme aujourd'hui, ça doit vous angoisser, ça, quand même.
Absolument pas.
Non, mais il va plus faire grand-chose, mais voilà, c'est le préféré des Français.
Non, mais déjà, tant qu'on le pousse pas aller aux toilettes, c'est bien.
Oui, donc c'est vraiment...
Je dis ça au nom de tous les gens qui l'ont emmerdé en Côte d'Ivoire, donc c'est... Voilà, c'est de bonne guerre,
oui,
quoi,
c'est de
au
là que,
sens
c'est,
propre,
c'est de là que ça vient.
Figuré, quoi.
Ceux auxquels vous en voulez, c'est cette frange-là de l'échiquier politique.
Tout à fait.
La droite, voilà. Les Républicains aujourd'hui. Quoi, pour leur relation aussi à
non,
l'Afrique,
mais pour les bombes à Abidjan, c'est tout. Ouais. Donc voilà, j'ai le droit de leur en vouloir pour ça. Ouais. Ad vitam aeternam.
Il y en a qui sont au gouvernement, hein, des héritiers de... Par exemple, Darmanin, c'est un mec qui vient des Républicains.
Voilà.
Donc il y en a qui sont plus sous cette étiquette-là, mais qui sont quand même au pouvoir.
Ouais. On les a à l'œil grâce à toi.
Ça va pas suffire.
Mais est-ce que ça voudrait dire que Emmanuel Macron est aussi nul que Hollande, s'ils sont au même point de question.
Ah bah voilà, pavé dans la mare. Bah, allons-y, pardon, posons les vraies questions.
C'est la question sous-jacente. Hein.
Mais la réponse
est
oui.
Est-ce que vous roulez pour le retour de François Hollande?
C'est là
où on en est là. Est-ce qu'en sous-marin, vous n'êtes pas en train de nous reproposer un ticket aucun.
Et vous savez quoi, si on parlait d'autre chose et qu'on revenait donc à la Côte d'Ivoire, on va comme ça nous laissera l'occasion de développer d'autres sujets comme Heineken en Afrique.
Qui dire que c'est une très mauvaise bière. Et ça, je peux vous dire que c'est sur moi. Parce que moi, j'en ai rien à foutre, moi,
allez,
après. Mais
si on partait en musique en Côte d'Ivoire, avec vous allez nous proposer quelque chose de Djoubaka que notre invité connaît bien.
Eh ben, ouais, et c'est vraiment bien. Bah, justement, il est à côté de moi pour me contredire et tout ça, ou affirmer ce que je suis en train de raconter. Et on peut dire vraiment que tous les chemins mènent à la country folk, et donc celui qu'on va emprunter aujourd'hui, prend racine en Côte d'Ivoire. Alors, c'est un pays quand même qui a vu naître le Zigbiti, le Zouglou, le coupé décalé, et un groupe au milieu des années 80 a fait le pari, parce que c'en est un, de produire une musique folk aux accents de country. Et ces zébulons occupaient une place un peu digne d'un ovni dans un paysage musical qui était un des plus riches de l'Afrique de l'Ouest. Parce que des années 60 aux années 80, en fait, il y a eu ce que les conteurs à pognon ont appelé le miracle économique ivoirien, avec le business du cacao et du café. Et le bonheur collatéral pour nous qui aimons la musique, c'est qu'on enregistre sévère à Abidjan. On a des studios de première classe et un public qui est vraiment en attente. Bref, la Côte d'Ivoire résonne. C'est Funky Town, si vous voulez. Et alors d'abord, il y a un garçon qui est connu pour être un des caricaturistes les plus importants du pays, qui s'appelle Jess Abbey, et qui est très très fan en fait du Creedence Clearwater Revival, de Crosby, Stills & Nash. Il rencontre Peter Wan, avec qui il va monter un groupe qui porte leur deux noms. Et ces deux-là vont sortir un disque comme on lance un boomerang. Des fois on espère que ça revienne, des fois on sait pas quoi. De la country folk ivoirienne. Et même s'ils lorgnent en fait sur les États-Unis pour le son, les textes eux sont bien ceux de deux gars d'Abidjan. Et contre toute attente en fait, il y a une population étudiante qui va donner à leur chanson un écho incroyable et qui va largement dépasser très très vite la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils vont remplir des stades au Burkina, au Togo. Ils partent de l'apartheid, défendent une Afrique indépendante, sont contre la vengeance. Ils ont des harmonies musicales de premier ordre, c'est-à-dire à l'africaine, on mélange très différemment qu'aux États-Unis, une style guitare qu'on entend, un harmonica. Et ils vont quasiment lancer une mode, puisque dans leur sillage, les radios du pays vont diffuser du Dolly Parton, du Simon & Garfunkel, à fond la caisse. Alors vous savez que pour les artistes du continent africain, il est très très difficile de se faire payer leurs droits, et surtout à cette époque, ce disque est sorti il y a 33 ans. Et maintenant, il y a un label vertueux, on va dire, qui s'appelle Handsome Tape for Africa, c'est-à-dire des super trucs qui sont sortis en Afrique avant, et qui réédite ses albums et propose des deals où ses auteurs et musiciens, et je le dis, parfois vraiment oubliés, reçoivent 50% de leurs droits, ce qui n'existe plus, quoi. Et c'est comme ça, en fait, que moi, j'ai eu la chance de redécouvrir nos deux compères que je ne connaissais absolument pas. Et leur particularisme a même fait que la BBC a choisi une de leurs chansons, African Chant, pour accompagner la libération de Nelson Mandela. Aujourd'hui, Jess Abbey et Peter Wan ont quitté Abidjan et vivent, je vous le donne en mille, respectivement à Nashville, ouais, et San Francisco, où ils continuent à jouer de temps en temps de la musique. Et là, on écoute un de leurs grands succès, Our Garden Needs Its Flower.
We roll in the mystery. painted in a form. Flower garden, but today we change. Funny garden, the zoos have succeeded. What we are, one of our parents' six may be. The zoos have succeeded being there, prevent the other from being there. No less be what we are, what we are. One of our parents' six may be. Let's see, it's another. Cause all I'm gonna need is flowers. I sing for sisters and brothers. Cause all I'm gonna need is flowers. So let's sing peace and love. Cause all I'm gonna need.
Ça vous fait tout bizarre d'entendre ceci ici, c'est Jess Chabi, Peter One.
Jess Chabi et Peter One. En fait, d'entendre Jess Chabi et Peter One à France Inter, c'est comme si toi tu entendais Bachung,
le grand Jojo.
Bachung chez les Pygmées, quoi. c'est vraiment ça l'effet que ça fait. Ouais. Et c'est drôle parce que moi j'avais le disque à 17 ans, quoi. C'est l'année de mes 17 ans qu'il est sorti. Et ça, c'était vachement bien. Peter One, il était prof d'anglais. Et l'autre était caricaturiste, c'est deux jeunes gars cool qui jouent de la guitare, de l'harmonica comme Bob Dylan. Voilà, c'était fait pour nous, quoi. Moi, j'étais un grand fan de Bob Dylan, donc ouais. dans la veine, quoi. On a écouté Dolly Parton à cause de ces deux zigotos là.
Grâce à cela. On a écouté Our Garden Needs Its Flower, donc Jess Chabi et Peter One. Donc on peut les réécouter maintenant, Joubi, alors.
Bah ouais, carrément, on peut les réécouter. Et puis il y a intérêt parce que c'est une vraie découverte. Ouais. Et ça chante, en fait, il y a un truc d'harmonie vocale qui est très différente aussi de ce qu'on peut produire dans les pays anglo-saxons, puisqu'il y a un solfège assez différent en Afrique.
Il y a la tonique, la voix principale, là. Et puis en général, il y a une voix qui accompagne. À l'église, c'est la tierce à peu près. Alors que la tierce africaine, en fait, elle est changeante. Des fois, elle est cinquième. Ça dépend de comment s'entendent les trucs.
Merci André Manoukian, parce que une fois, c'est pour une fois, vous êtes clair.
C'est ça qui donne cet effet de... Ça te prend dans le ventre, parce que tu sais jamais ils vont la placer, la voix seconde, quoi.
Ouais, l'homme africain n'est pas rentré dans le solfège. J'entends bien ce que vous dites.
Il avait d'autres parts où rentrer.
Merci beaucoup, Djoubaka. Vous avez mis dans le mille. Et Gauze est avec nous. Il publie Camarade Papa aux éditions Le Nouvel Attila. On entendra tout à l'heure Juliette Arnaud à ce sujet. Et là, à cette heure-ci, vous avez l'habitude de retrouver Guillaume Meurice.
Surtout qu'aujourd'hui, on est sauvés, putain. Ça y est, de Rugy, ministre. C'est vrai que j'ai été un peu alarmiste hier en disant que Macron était aussi écolo que Djoubaka danseuse étoile à l'Opéra de Kaboul. Mais aujourd'hui, on est rassuré. Gros stuff chez les ours blancs en début d'après-midi. L'action Tofu a pris 12 points à Wall Street. Et puis, le ministère pour De Rugy, c'est aussi la preuve qu'on peut avoir le charisme d'une table basse et la constance politique d'Aurore Berger et réussir quand même dans la vie. Ça redonne espoir s'il y a des jeunes qui nous écoutent. Et puis, on est d'autant plus sauvés que je suis allé ce matin au forum Convergence. C'est le forum des solutions équitables et durables. Alors, ne vous enflammez pas quand même. C'était, je cite, sous le haut patronat d'Emmanuel Macron. Hein, donc c'était pas un dîner de zadistes au flunch de Bagnolet. D'ailleurs, l'événement avait lieu à la Bourse de Paris. Comme ça, on était, ça calmait tout le monde. Hein. Je rappelle qu'on n'a jamais vu Jean-Yves Courtial en Sarouel. Mais j'ai rencontré plein de gens intéressants qui ont des solutions d'investissement solidaire. Exemple, une société qui propose de la réinsertion et des massages hors d'entreprise.
On apporte la musique, l'ambiance musicale, l'ambiance parfumée, huile essentielle, etc.
C'est pour que les salariés soient encore plus productifs après.
voilà, derrière, il y a toujours cette idée aussi, bien-être au travail égale aussi meilleure santé économique dans l'entreprise, meilleure production de l'individu.
Mais alors, si c'est des entreprises qui polluent, est-ce que c'est pas contre-productif?
C'est une question complexe.
Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple, hein, parce que si c'est pour aller faire des massages de la prostate chez Monsanto, il y a déjà le ministre de l'Agriculture. Ça va faire doublon, faites gaffe. Alors, c'est pas la seule petite contradiction qu'il y avait ce matin, parce que dans les tables rondes proposées, il y en avait une organisée par Coca-Cola. Ah, donc non. Déjà, je dirais LOL. Ah, déjà, je parlais comme en 2015. Et elle était sur le thème des enjeux du plastique. Oh les taquins, oh les taquins, les enjeux du diabète, ils ont pas osé. Alors, je suis allé voir le représentant de Coca, non sans que sa directrice de com l'ait prévenu de qui j'étais exactement quand même avant. Alors, écoutez bien le silence qui suit ma question, parce que c'est déjà du Coca-Cola, du Coca écolo.
En tout cas, on a des grosses ambitions en la matière, puisqu'on veut doubler notre intégration de plastique recyclé, et on s'est engagé là-dessus.
Si on veut être le plus écolo possible, est-ce que c'est pas mieux de pas boire de Coca du tout?
Après, les gens sont libres de leur choix.
C'est la bonne réponse. Il s'en sort pas mal. Pour une entreprise qui pille les réserves d'eau des pays en développement, c'est pas mal. Fallait la jouer serrée. Je rappelle que Coca, dans le monde, c'est 10 000 litres d'eau par seconde. Quand même, il faut le rappeler. Donc, le temps de dire cette phrase, c'est la consommation en bourbon de Jean-Vincent Placé qui est consommée par Coca-Cola sur la planète. Alors, comme moi aussi, je suis taquin, j'ai quand même un petit peu continué avec lui.
Vous pouvez évidemment faire ce que vous voulez. À partir du moment où vous recyclez vos bouteilles plastiques, nous, on peut vous assurer, en tout cas, qu'on va pouvoir la réintégrer dans notre production.
Mais ça serait mieux de ne plus consommer cette boisson, comme ça on est complètement écolo. Moi, j'ai des solutions, hein, je suis un homme de solutions.
Encore une fois, chacun est libre de ses choix.
Il a bien appris la leçon, ok. Si on défonce les écosystèmes, c'est la faute aux consommateurs. Voilà, vive le desktop. Le Coca, pardon, je confonds toujours les deux. Alors, autre cocasserie ce matin, la présence comme partenaire de convergence de la BNP. Hein, ça c'est cocasse, qui est dans les classements des ONG classés à peu près comme la pire banque en termes d'investissement écologique. Moi, si j'étais une métastase, j'ouvrirais un compte à la BNP, pour dire merci, quoi, par respect. Alors, je suis allé les voir, la BNP. Je suis allé les voir, mais quand ils m'ont vu, ils n'étaient pas chauds, ils n'étaient pas chauds, ils n'étaient pas ravis.
Vous n'êtes pas aimé de ces
gens. Non, heureusement que je ne suis pas Élise Lucet. Hein. C'est vrai qu'ils avaient une descente d'organes directe. Alors, ils n'ont pas voulu me répondre. Bah, tant pis, je suis allé voir les organisateurs du forum. Pourquoi avoir invité la BNP?
Les banques ont du pouvoir, pour changer le monde, il faut du pouvoir. Donc après, est-ce que la BNP est le meilleur partenaire? Je ne sais pas.
Ah ouais, c'est ça, c'est la question qu'on se pose, dis donc.
Je vous laisserai répondre à la question, du coup.
Mais vous, votre avis, ce serait quoi?
Sur la BNP?
Ouais.
Je passerai la question.
Ah, c'est dommage.
Oui.
Parce qu'elle est classée souvent parmi les banques qui soutiennent le plus les entreprises polluantes.
Ah oui? Mais peut-être. J'ai pas regardé les études par rapport à ça et la BNP, ça m'intéresse pas plus que ça.
Oh bah finalement, attendez, on s'en fout. Hein, du moment qu'ils sont sympas, la BNP. Moi, j'ai bien invité Michel Fourniret au goûter d'anniversaire de ma nièce. Ça s'est très bien passé. Alors, comme je sais que parfois, les gens qui nous écoutent sont quand même tatillons, je suis quand même allé voir l'organisatrice principale de l'événement pour avoir plus d'explications quant à la présence donc de la BNP.
Ils ont vraiment, ces 10 dernières années, vraiment changé énormément de choses. Ils ont mis en place des green bonds, ils ont une vraie réflexion.
Des green bonds?
Des moyens d'investir dans de la croissance verte et dans des instruments financiers verts. Voilà, ils en
ont. Ça sent déjà un peu l'arnaque, on dirait, non?
Parce que moi, j'explique ça très mal, sans doute.
Non, c'est clair. C'est clair, ils ont investi dans des trucs verts, quoi. D'ailleurs, le logo de la BNP,
oui,
il est vert.
Ah, oui, ça.
Hein, ça change un peu des anarcho-syndicalistes de la Société Générale avec leur rouge et noir agressif. Et puis, l'idée de ce genre d'événement, c'est avant tout, je dirais, de discuter.
Chez nous, on pense qu'il faut que tout le monde soit autour de la table pour changer le monde et que ça ne sert à rien d'ostraciser ceux qui ont des pratiques un peu moins parfaites que les autres et que si elles sont autour de la table, elles vont apprendre.
C'est beau ce que vous dites.
C'est beau, hein.
Mais est-ce que ça veut dire qu'au Forum du Féminisme, on invite DSK et Denis Baupin, par exemple?
Bonne question.
Parce que c'est à la fois le problème et la solution, peut-être.
Ça peut être important qu'ils rencontrent justement des féministes qui leur expliquent un petit peu comment améliorer leur pratique, si j'ose dire.
Bien oui. Évidemment, madame. Pourquoi vous pensez que Macron et sa clique, ils bouffent avec les lobbies matin, midi et soir? C'est pour faire évoluer les mentalités des lobbies. Belle abnégation. Donc, on compte fort sur les responsables du bordel pour arranger le bordel. Allez, je vous laisse, parce que moi, j'ai rendez-vous au grand rendez-vous de la bienveillance et du respect, sous le haut patronage, évidemment, de Nordal Lelandais.
Merci, Guillaume.
Moi, je crois pas. tu es un fabricant de fiction, toi. Tu vas écrire des bouquins. Ça n'existe pas, ce qui s'est passé.
Là, le forum Convergence, c'était hier et aujourd'hui. Vous allez faire un tour sur le site. Il y a des vidéos et des choses formidables.
Et on tenait à vous le faire partager, Gauze. Il n'y a pas de raison.
Merci, je suis touché.
Il y avait Veolia aussi. Il y avait plein d'autres gens très intéressants.
En tout cas, camarade papa, n'enjoignez pas à boire le Coca-Cola ni le Pepsi, la boisson de l'oppresseur. Alors parlons de ce sujet qu'on a, en le voyant, on a tout de suite pensé à vous et à votre livre. La bière Heineken, qui arrose de plus en plus l'Afrique, en même temps que progresse la classe moyenne en Afrique qui consomme la bière industrielle. Alors corruption, soutien aux dictatures, jusque-là, rien d'étonnant, on est d'accord ?
C'est normal. Normal.
Mais là où une enquête montre qu'au Rwanda, Heineken a été le carburant des génocidaires et la boisson de la récompense aussi. Le géant hollandais.
Avec ou sans Heineken, de toute façon, il se serait mis dessus déjà.
Il se serait mis dessus aussi, mais enfin, c'est-à-dire que Heineken
Rwanda,
a aussi.
Ils auraient quand même pu boire de la bière belge avec tout ce qu'on avait fait quand même.
Alors, le géant hollandais a aussi engagé 2500 prostituées chargées de faire la promo d'un breuvage qui rend plus puissant sexuellement. Cours pratique à la pluie, donc la colonisation par le ventre et le bas-ventre. Autre exemple.
Ah, monsieur le ministre, j'ai un présent que je tiens à vous offrir en mon nom personnel. Des asperges de Saint-Albouy. Voilà, ce sont les meilleures et les plus délicieuses asperges du monde. Sel, minéraux, vitamines, bien-être, c'est vraiment le meilleur allié santé pour des gens qui, comme vous et comme moi, sont toujours dans l'action permanente au service des gens, n'est-ce pas? Alors voilà, j'en ai évidemment apporté aussi pour son excellence le président du Gondwana. D'ailleurs, à ce propos, monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que le président pourra me recevoir pour que je lui expose quelques projets que j'ai pour le Gondwana autour des asperges?
Il est très ouvert à tout ce qui fera avancer le pays.
Antoine Duléry, notamment dans Bienvenue au Gondwana, le film de Maman. Alors aussi au Congo, Heineken force les filles à coucher avec des responsables de la brasserie et des gérants de bar. Toutes ces révélations se trouvent dans un livre, enquête, d'un journaliste hollandais. Ça s'appelle Heineken et l'Afrique. Je l'ai mis entre vos mains, Gauze, ce livre. Je vous l'offre d'ailleurs parce que je pense que vous aurez peut-être envie de le lire. Est-ce que vous le saviez ou vous aviez pressenti que Heineken avait ce genre de pratique
mais pas que eux. Ouais, c'est bien que un livre exemple soit sorti, mais c'est tous. Il y a les grands Français, Diageo, les Anglais, et voilà, ils y sont tous. Et ils pratiquent à peu près de la même façon. En ce moment, à Abidjan, c'est la grande mode des très écologique des plaques métalliques devant les bars. Donc ils se font la guerre par des plaques géantes de plusieurs dizaines de mètres carrés au nom de l'endroit ou du troquet. Donc des fois autour de deux tables, maquis, chétanti, alois en 12 mètres carrés. Faites en plaques de fer. Donc ça fait des centaines de maquis comme ça dans toute la ville, c'est-à-dire de
maquis,
petits
c'est des bars,
des petits bars comme ça dans toute la ville. Voilà, ça pollue visuellement la ville déjà, et ensuite c'est pas du tout écologique.
Donc ils se font la guerre.
Ils se font la guerre visuelle et c'est énorme. Et l'Afrique a une très longue histoire politique avec la bière, Lumumba.
Vous l'appelez le vendeur de bière.
Bah oui, c'est un véritable représentant commercial de la bière. Mais je veux pas trop dire de mal de la bière parce que Abidjan, ils vont pas.
La Heineken, c'est inexplicable. Les Belges, on ne s'explique pas pourquoi cette mauvaise bière hollandaise est dans le monde entier, alors qu'il y a plein de bonnes bières et faites sur place et d'exportation.
Bien sûr.
La Champions League, ça te dit quelque chose, toi?
Mais on est d'accord. Mais
justement, on a pensé aussi à Heineken, qui est un géant hollandais. Et dans votre livre, il y a un des deux personnages qui grandit à Amsterdam, qui va en Afrique. Et vous dites, les Philips, la bourgeoisie hollandaise collabo dans les expériences avec les fascistes pendant la petite guerre, plus longue et meurtrière que la grande guerre. Ils ont fortuné à vendre de la lumière et du son, une honte, s'enrichir sur le dos des vibrations fondamentales de la nature. À la victoire finale des luttes prolétariennes, il y aura des exécutions sur la place publique. Les Philips seront pendulés en même temps que leurs ampoules au-dessus de la piste de danse de la nouvelle dictature du peuple. C'est camarade papa qui parle.
Ouais, c'est à nous, l'enfant quoi de camarade papa, et qui n'a que ce genre de discours. Il ne comprend le français que à travers les discours marxistes de son père, parce qu'il est vrai, il est vraiment né en Hollande et dans le quartier rouge, le plus beau quartier de la ville, où il y a les vendeuses de bisous,
d'ailleurs en partie élevées par une vendeuse de bisous.
Yolanda, la grande Yolanda, la marron.
C'est ça. Et donc aujourd'hui, avec ce cas de Heineken, en fait, c'est un peu le cas de Philips, mais transposé aujourd'hui.
Exactement. On est au cœur du discours de ce gamin-là, qui est né en Hollande, parce que ses parents communistes cherchaient le patient zéro. Ils considèrent le capitalisme comme une espèce d'épidémie qui a contaminé toute la planète.
Et dont le berceau est Amsterdam.
Et dont le berceau, pour eux, est la Hollande. Tout le monde s'est planté, c'est pas l'Angleterre, c'est la Hollande. Donc ils vont là-bas pour étudier le patient zéro et trouver le vaccin pour soigner le monde du capitalisme. Et les deux pays qui ne sont pas contaminés, c'est la Grande-Russie à cause de l'Oural, et puis la Chine à cause de Mao et la Grande Marche qui s'est fuir le pesticide et autres quand ça chauffe.
Mais voilà. Sans vouloir, est-ce que c'est la faute de Heineken ou est-ce que c'est la faute de l'Afrique? Est-ce que c'est possible d'aller faire du commerce en Afrique sans utiliser ces méthodes-là?
Mais tout le monde fait ça déjà. Ouais. Bolloré, vous croyez qu'ils font, ils font comment? Et c'est un exemple comme un autre. On peut pas demander au lion de se justifier d'être un lion, quoi. Il vient et voilà, il va taper dans la bête, mordre où il faut, à la jugulaire de préférence, pour que la bête meure le plus rapidement possible et qu'il se repaisse de son repas. C'est comme ça. Ils sont tous exactement. Il y a pas de modèle alternative de l'industrialisation en Afrique. Il n'y en a pas. Je mets au défi quelqu'un de trouver... il faut tous les prendre. Ils sont tous pareils.
Alex disait que Bolloré était quand même assez chouette par rapport au fait que j'ai son employeur à la télé.
Ça se passe très bien. On boit une Heineken, franchement.
Oui, c'est des champions. Donc, au moins, eux, ils font ça en enivrant les gens.
En tout cas, je vous mets entre vos mains ce livre,
Merci
Heineken
beaucoup.
En Afrique, d'Olivier Van Bemmen, édition Rue de l'Échiquier. Il y a un entretien avec lui, avec Jacques Monin, dans le dernier Secret d'Info sur cette antenne France Inter, disponible en réécoute, et je vous le conseille chaleureusement. Juliette Arnoux, revenons donc au roman de Gauze, Camarade Papa, roman historique sur la colonisation, édition Le Nouvel Attila.
Oui, alors ce titre, Camarade Papa, dans quelles circonstances un enfant peut-il parler de son papa et à son papa en disant Camarade Papa? Lorsque le papa est communiste. Et avant d'être papa, il est camarade. Quant à camarade maman, elle a disparu. Et sinon, la peau brune du fils de camarade papa et ses cheveux roux, d'où viennent-ils? Il faut accepter de pas savoir. Il faut accepter d'avancer dans le roman à l'aveugle. Il faut accepter de se laisser faire avec un bandeau sur les yeux qui, peu à peu, mais à son rythme, se dénoue. Il faut laisser l'enfant et notre temps pour aller en 1880, en gros, qui est un temps de colonisation, prendre une grosse calotte en accostant par la barre de Grand Bassam, je sais, j'ai failli mourir moi-même, pour accéder au premier comptoir colonial français de ce qui deviendra la Côte d'Ivoire. Et la barre de Grand Bassam, c'est une galère sans nom. Seuls les pirogues passent, certainement pas les baleiniers, et même en pirogue, c'est sportif. Et ça, quand même, ça devrait mettre la puce à l'oreille des Blancs qui débarquent, leur susurrer que peut-être, peut-être, ceci n'est qu'un début, et qu'ils vont en baver copieux. Mais l'homme blanc est entêté, l'homme blanc français en ces temps-là l'est encore plus, d'autant qu'il vient de se passer des trucs pourris dans son royaume du Danemark. C'est l'époque de la post-raclée de Sedan, Napoléon III a ramassé sa baffe face aux Prussiens, il a dit « Bienvenue messieurs de la commandanture, avant l'heure !» La commune de Paris n'est plus, on construit sur ses décombres glorieux pour un nouvel ordre moral, cette bouse de Sacré-Cœur. Enfin, le gardien de l'honneur de la France et de ses misérables, j'ai nommé Victor Hugo, ne va pas tarder à rejoindre ce moineau de Gavroche. Un de ceux-là, un de ces moineaux, il se tire de la France, il s'appelle Maxime Dabili, il a pas un rond, il est orphelin, et il n'a pas peur de l'Afrique. Il pense « L'Afrique est inimaginable ». Elle ne me fait pas peur. Camarade Papa, un siècle plus tard, dit, lui à son fils, en Afrique, aucun diable, juste la chaleur. Et c'est déjà pas mal la chaleur pour un petit blanc. D'autant que Dabili est vraiment très blanc. Il est tellement blanc qu'il est roux. Et les blancs à cette époque, ils crèvent en Afrique. Moi, c'est ce que j'ai appris en lisant ce livre. Et en général, ils meurent pas dans des grands combats contre des animaux énormes ou flippants ou avec des dents de scie ou contre des indigènes cannibales. Ils crèvent de manière moins honorable. Ils crèvent de dysenterie. Ou deux moustiques.
De heureusement. Chiasse, quoi.
Ouais, c'est ça.
On a bien compris.
Heureusement, tout ce qui est colique, en fait.
Voilà, tout ce qui a rapport avec le fait que tu te vides par le cul. Ouais, heureusement, ouais. Dabili n'est pas comme les autres. Ni l'argent, ni la quête du pouvoir ne semblent le guider. C'est un rêve, peut-être, qu'il guide. Alors, Dabili voit, il écoute, il apprend tellement bien. Qui fait comme tous les gens qui apprennent très bien, il tombe amoureux. Il est fasciné par un peuple du coin, les Anis. Ils sont inspirants, les Anis, de plein de manières. Et puis chaque lecteur, chaque lectrice chopera dans le bouquin de camarade papa, ici ou là, un endroit où sa culture à lui le titille, le dérange, le brusque. Moi, par exemple, et ça n'étonnera personne, ce qui me brusque dans ma culture, c'est la place des femmes. Alors, la description des Annie accompagnant les hommes blancs dans leur avancée dans les terres de la future Côte d'Ivoire, je l'ai trouvée intrigante. Parce que les gens réquisitionnés sont des hommes, mais leurs femmes les accompagnent. Et lorsque Maxime Dabili s'étonne de ça, on lui répond que, et je cite, « Pénélope n'existe pas ici. La femme suit Ulysse. Elle ne l'attend pas. » Gros big up à Pénélope, soit dit en passant. Clin d'œil, clin d'œil. On chope d'autant mieux ces endroits que la langue de Gauze est piégeuse. Elle captive. Écoutez un peu. Les eaux faufilent leur noir profond dans un corridor de bosquets assoiffés au point d'immerger leurs feuilles. Des bandes de crocodiles, gueules ouvertes, immobiles sur la grève, avalent les rayons de soleil. L'horizon est morbide. On croit naviguer sur le Styx. Moi, perso, j'étais captive. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud.
Super.
Lecture, vous avez quelque chose à ajouter? Bonne lecture de Camarade
Super
Papa.
Super lecture.
Édition Le Nouvel Attila, et on vous le recommande vraiment, hein, ce magnifique roman de Gauze qui est notre invité aujourd'hui. On va aborder ce dernier sujet avec vous. Ce sont les piétons rivés sur le téléphone portable qui se mettent en danger. Alors un conseiller du gouvernement britannique a eu cette idée, coller la signalisation au sol pour qu'elle puisse être visible tête WC. Et on connaît déjà des exemples chez nous, ça existe un peu ça quand même.
Qu'est-ce que tu vois?
La route?
Non! Là! Qu'est-ce que c'est? Développement! Là!
Une ligne de peinture jaune.
Non, Vanuxen, ce n'est pas une simple ligne de peinture jaune. Ça, c'est l'endroit où de grands compatriotes ont donné leurs larmes, leur sang, leur vie pour protéger notre terre.
Faisant de ce lieu anodin
la terre sacrée du royaume de Belgique. Alors tu vois, cette ligne jaune, elle est importante. Parce que c'est ici qu'ils sont tombés. En brave, la tête haute.
C'est Poulvord dans Rien à déclarer, le film de Danny Boone. C'est la presse britannique qui explique aujourd'hui, donc un conseiller du gouvernement propose de mettre la signalisation au sol parce que les gens sont sans cesse rivés sur le téléphone portable, donc regardent leurs pieds, le sol uniquement. Alors Gauze, vous pendant 2 ans, vous avez été vigile, vous avez écrit Debout payé, vous avez beaucoup observé. Est-ce qu'il y a des gens qui vous sont rentrés dedans sans vous voir? Est-ce que vous avez observé ça, que les gens finissaient par se courber de plus en plus avec leur téléphone et...
Ouais, ben, il y a 2 ans, en fait, dans les boutiques, ils sont pas trop obnubilés par le téléphone. Ils ont d'autres objets de consommation, ils sont friands de d'autres choses. La première fois que j'étais vigile à Place de la Bastille, je me souviens, je me suis fait écraser. C'était les soldes. Et dès que j'ai ouvert le magasin, je me suis fait écraser par la ménagère de moins de 50 ans. Quand même. Donc c'est vrai qu'il faut faire quelque chose contre ça. Je crois contre le massacre des vigiles des noirs pendant les soldes. Donc les Anglais ils ont d'autres soucis. De toute façon, moi je suis contre les Anglais. J'ai été colonisé par les Français. Voilà. Donc je respecte cette histoire-là. Ça a été la guerre pendant 150 ans. Moi je suis du bon côté de la Manche. Les autres ils peuvent crever, ils vont se faire tous écrasés grâce au téléphone portable.
Voilà, donc ils continuent à regarder leur téléphone, voilà, c'est ça le message.
Qui le regarde, on sera encore champion du monde dans 4 ans.
Mais nous aussi, on vit courbé, il y a cette évolution, on va finir avec la colonne vertébrale en arc de cercle, non?
Vous penchez, vous, pour...
Non, mais je remarque les passants dans la rue, les gens, ils vous rentrent dedans, ils vous bourrent dedans parce qu'ils regardent leur téléphone, ils vous voient pas. Non?
C'est assez phénoménal hein, comme évolution physiologique. Donc en tant que scientifique, je me...
Et vous êtes dépendant, vous, de votre portable ou pas du tout? Ou vous essayez de trouver des stratagèmes pour éviter de le devenir?
J'en ai plein. Par exemple, j'ai cassé mon téléphone.
C'est une bonne technique.
En janvier, j'ai passé 4 mois sans téléphone. Ah oui. J'ai déjà fait... Mon record, c'est quand même 11 mois sans téléphone. C'est l'enfer pour les copains.
Oui, donc vous êtes vraiment un homme libre. Gauze, avec nous. On a un petit rôle à vous proposer, de composition.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. Il découvre le texte et son rôle. Et je me suis dit, ce qui vous irait bien, c'est peut-être le rôle de Jean-Marie Le Pen. Je me suis dit... J'ai senti, je me suis dit voilà, il y a un truc d'acteur à jouer. Parce que le Rassemblement National essaie évidemment de récolter des fonds, ils sont un peu dans la mouise au niveau financier. Marine Le Pen et Valérie Saint-Just, en la personne de Guillaume Meurice et Charline Vanhoenacker, sont en train d'ouvrir les petites enveloppes. Et qui c'est qui vient rendre visite à sa fille? C'est Jean-Marie, on se rend au siège du Front National.
Ah bon, alors où sont mes assistants?
Comme tes succès à toutes les élections, j'ai bien peur qu'ils soient fictifs.
Non mais qu'est-ce que vous foutez là, monsieur Le Pen ?
Appelle-moi papa !
Qu'est-ce que vous foutez là, monsieur Papon ? Papa, pardon.
J'avais envie de rire, je suis venu assister au résultat du RN temps.
Oui, alors où en sommes-nous, monsieur de Saint-Just ?
Nous avons reçu plus de 500 000 euros.
Et merde, on est foutus !
Tant mieux !
Non mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ?
Alors on a un chèque de monsieur Philippot F.
Le sale petit traître.
Mais quel montant alors ?
Un franc symbolique.
Un franc ?
Un franc.
Il n'avait pas vous payé un euro, la petite tare.
Non, papa, plus d'homophobie au RN.
Oh, hein, rassurez-moi, le racisme, on peut ?
Bah, j'aurais tendance quand même à dire oui.
Là, une chose à la fois, quoi d'autre ?
Alors, on a un don d'un certain Ménard R.
Ça me rappelle que j'ai comme une envie de baiser.
Papa !
Tu préfères que je m'exprime sur le troisième Reich ?
Non, ça va aller.
Non, moi j'en peux plus, là, je me sens pas bien.
Comme dans un débat de l'entre-deux-tours.
Non, me dites pas que pour renflouer les caisses du parti, on va devoir faire le jeu des 1000 euros.
Attendez, j'ai une enveloppe signée de madame Maréchal M.
Elle ferait mieux de travailler à l'école, celle-là.
Combien, l'enveloppe ?
Non, il n'y a rien, il y a juste un petit mot. Bon courage, tata, lol, MDR.
Excellent, cette petite, c'est son grand-père. Tout craché.
Non, mais qu'est-ce qu'on va devenir ? On appelle à l'aide Stéphane Bern ?
Tu te prends pour un monument en péril ?
Non, écoutez, monsieur Le Pen, c'est la démocratie qu'on assassine, là. Hein.
Si t'en es réduite à paraphraser François Fillon...
Bon, si ça continue comme ça, j'annonce ma démission dans le 7-9 de France Inter.
Enfin, un vrai moment de grâce.
Pas mieux.
Ah, vous êtes rentré dans la peau de Le Pen avec une facilité.
Le racisme, c'est facile. Ce qui est compliqué, c'est la répartition des richesses, le partage, trancher entre les contradictions d'une société. C'est ça là, qui est compliqué. C'est compliqué d'être de gauche. Pour le reste...
On dirait Luchini.
C'est difficile d'être de gauche. Mais voyez, c'est difficile. On le vit pas toujours très bien et pourtant, on résiste. Gauze, merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous.
C'est moi. Je peux bosser avec vous. Vous me rappelez quand
avec,
vous voulez.
Avec joie, avec
Regardez
joie.
Regardez ces Africains, ils cherchent un travail tout de suite.
Gauze, le satiriste, on a découvert que vous étiez satiriste. Et je rappelle votre roman qui s'appelle Camarade Papa, paru aux éditions Le Nouvel Attila. Et vous serez présent au Festival du Livre dans la boucle. Ça se passe à Besançon. On pourra vous voir, Gauze. Ce sera du 14 au 16 septembre. J'ai comme l'impression que Juliette y sera aussi.
Oui, moi aussi, Gauze.
Et on vous dira pourquoi très très bientôt.
Car il y a sans doute un livre. Allez. Peut-être.
Merci les amis. On se retrouve demain avec le comédien Patrick Mill. Et on va vous laisser le mot de la fin. Tiens, Gauze.
De façon décomplexée, la négritude, il n'y en a rien à péter en fait.
Prends ça dans la gueule, Aimé Césaire, ce qui nous écoute. Bam!